Chapitre 4. Un flic de la criminelle répond toujours au téléphone, quelle que soit l'heure. Thierry Brossard, alias Titi, fut tiré de son sommeil à plus de 23h30 par sa nouvelle recrue, venue du Nord. À l'autre bout de la ligne, la voix était paniquée. Aussi lui demanda-t-il de se calmer et de parler clairement. Quand Franck Charcot lui annonça qu'il avait défoncé une porte et découvert le cadavre d'une femme défigurée et torturée en pleine haute vallée de Chevreuse, Brossard eut l'impression d'être encore dans son cauchemar. Il gueula au point de réveiller sa femme et ses deux fils, tout en s'habillant, le combiné calé dans le creux de l'épaule. À la suite de la description faite par son numéro 6, Titi déroula les procédures. Appel immédiat à son adjoint, qu'il chargea de réveiller sur le champ le reste du groupe et les gardes scientifiques. Puis il joignit le substitut du procureur de permanence, lui expliquant judicieusement la raison pour laquelle le groupe d'astreinte n'avait pas été averti. Un groupe, un autre, c'est du pareil au même, monsieur le substitut. C'est tombé sur mon dernier de groupe qui n'a même pas un mois de boutique. Ce qui compte, c'est de réagir rapidement. Mes effectifs sont au taquet, on vous attend sur place. Lorsqu'il franchit le seuil de son appartement, le casque de sa moto dans une main, une thermos de café dans l'autre, il se retourna pour voir si sa femme allait lui souhaiter bon courage. Le salon était vide. Titi soupira. Il aurait pu faire un détour par la chambre afin de lui annoncer qu'il ne reviendrait pas avant la nuit prochaine, mais il ne le fit pas. Pas l'envie, ni le courage. 2 heures plus tard, à Saint-Forger, c'était le branle-bas de combat. Une dizaine d'hommes arrachés à leur lit, saisis par le froid hivernal, avaient investi les lieux. Les projecteurs installés par l'équipe de l'identité judiciaire conféraient à la forêt un air lugubre. À proximité des véhicules, Brossard bataillait avec le magistrat contacté plus tôt. Il avait vu la scène de crime et il voulait à tout prix cette enquête. Certes, les Yvelines n'étaient pas sous la juridiction du 36, mais la victime présumée habitait le Marais, et c'était une photo apportée au quai des Orfèvres qui avait permis la découverte du corps. À peine arrivé, Serge Amandier, le numéro 2 du groupe, avait pris à partie le pauvre Charcot. Proche de la soixantaine, il avait le front large, de petits yeux bleus rapprochés, un nez marqué par une tache de naissance rouge sombre. Le genre de flic à l'ancienne, aigri, gros fumeur, qui picolait pas mal, et détestait tout ce qui représentait la nouveauté, que Franck incarnait. L'affaire des disparus du sud parisien, c'était la sienne, son obsession, son échec. Et il ne supportait pas qu'un petit connard fraîchement débarqué du Nord vienne lui parler d'une enquête à laquelle il n'avait même pas participé. Il décida de passer ses nerfs sur Philippe Vasquez, l'emmenant au chaud à l'arrière d'un véhicule, pour tenter d'y voir plus clair. Appuyé contre un arbre, frigorifié, Franck Charcot observait dans son coin chacun de ses hommes. Une traque allait débuter, et il voulait en être. Pas besoin d'être un fin psychologue pour sentir que ce genre d'opportunité ne se présentait pas tous les jours. Alors, sans rien demander à personne, il enfila des surchaussures et des gants en latex piochés dans le fourgon de la scientifique et entra dans l'habitation. Leur numéro 3, le procédurier Alain Glichard, était accroupi au niveau de la porte, un magnétophone posé devant lui. Les constatations, les plans minutieux des scènes de crime, les synthèses concernant le travail de l'équipe et les retranscriptions en langage juridique, les fameux procès-verbaux, c'était lui. On l'appelait « le glaive », parce que sa coupe au bol et sa moustache en guidon au reflet argenté brillaient tel le métal froid, mais surtout parce que l'homme était raide comme la justice. Jamais un mot plus haut que l'autre ni de coup de gueule, vie privée inconnue. Des mauvaises langues le disaient accro au Minitel rose, 3615 Ula. Il leva un œil d'un bleu profond vers Charcot. T'avais remarqué ce qui était écrit là? Il désigna le battant. Sur la face intérieure, on lisait en grand et en rouge « Pagode ». Les lettres tracées les unes sous les autres avaient coulé en larmes épaisses. « Non, dans la panique, j'ai pas fait attention. C'est du sang? De la peinture? Dis-moi, comment tu t'y es pris pour défoncer la porte? J'ai donné des coups d'épaule. C'était du costaud. Puis j'ai entendu un craquement. Je vois. Regarde, le gros verrou à molette, là, était enclenché à double tour. » Quand tu as forcé, tu as arraché un bout de l'encadrement avec la gâche, ce qui a permis l'ouverture. Quant à la seconde serrure, elle a cédé sous ton poids. La clé d'entrée était posée sur la table dans l'autre pièce. Tu vois venir ma question. Si cette issue, la seule de l'habitation, était doublement verrouillée de l'intérieur, par où l'assassin est-il sorti? Alain Glichard s'écarta pour laisser passer le chef de l'IJ, un profil de phasme qui lui signala qu'ils en avaient fini avec les photos et les prélèvements sur le cadavre. Son haleine avait des relents de café froid. « On a plusieurs types de traces papillaires, » ajouta-t-il. Pour le sang, on a relevé une tache isolée sur la poignée de la porte de la chambre qui, avec un peu de chance, appartiendra à l'assassin. Il s'est peut-être blessé en commettant ces atrocités. Déjà à moitié dehors, il lança à l'intention de Charcot. « C'est pas pour les mauviettes là-bas, ça retourne le cœur. J'ai connu plus tranquille comme cadeau de bienvenue. Bon courage, inspecteur. » À présent que la voie était libre, les deux hommes s'avancèrent entre les tableaux et les draps suspendus. Glichard portait une grosse sacoche en bandoulière et s'était allégé de son blouson. On n'avait pas coupé les chauffages, car on attendait toujours le médecin légiste et il importait de laisser la victime dans son jus. « Pour en revenir à ma question, j'ignore par où l'assassin est sorti, » reprit Glichard. « Pour la serrure, il avait peut-être un double, mais pour l'autre verrou, je ne comprends pas. T'as lu Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux ?»« Quand j'étais gamin. On est en plein dedans. Il n'y a pas la moindre fenêtre. Au plafond, c'est une plaque de plexi inamovible. J'ai vérifié en grimpant sur une chaise. Quant au sol, du béton peint partout, sur la tôle du conteneur. On est dans une boîte hermétique. T'as une théorie ?» Aucune. Pourtant, vu ce que cette femme a subi, ça m'étonnerait fort qu'elle se soit fait ça toute seule. En 15 ans de carrière, c'est la première fois que je suis confronté à un truc pareil. Et ça me plaît pas beaucoup. Dès qu'il y a un soupçon d'intelligence dans la tête d'un criminel, ça complique les choses. Des claquements de portières au dehors. Des gens arrivaient encore, sans doute les pompes funèbres, le légiste ou le reste du groupe. Une fois le corps levé, ils allaient devoir fouiller chaque recoin de l'habitation. Un travail fastidieux qui durerait jusqu'à l'aube. Dans la chambre, le glaive repéra les marques de sang sur la poignée. Il posa sa sacoche par terre, en sortit des sacs en papier, des enveloppes Kraft, de la cire rouge, un ruban gradué et un appareil photo réflexe. Charcot essaya d'apprivoiser l'odeur en respirant par la bouche et de garder le contrôle cette fois. Il savait l'importance de la scène originelle. L'assassin s'était tenu à cette place. Il avait frappé, exprimé ses pulsions, tué entre ses murs. D'une façon ou d'une autre, il avait signé son crime. « Je n'aime pas avoir quelqu'un dans les pattes, » fit Glichard en lui tendant le boîtier du réflexe, « et encore moins un bleu. Mais rien que la manière dont t'as doublé Santucci, ça te donne le droit de rester. Enfin, si tu supportes. » »« Je supporte. » »« Tant mieux. Ce n'est pas quelque chose qui s'apprend. Je te laisse t'occuper d'immortaliser tout ça. C'est du 36 poses, t'es large. Ligi a déjà bombardé sous tous les angles, mais je préfère posséder ma propre collection. Et avant que j'oublie... » Il gribouilla un papier et le remit à Charcot. « Réquisition, pour toi. Tu te doutes bien que je dois t'entendre officiellement. Il faut tout mettre au carré et dans l'ordre. Tu viendras déposer dans mon bureau en fin de matinée. » Franck hocha la tête en silence, empochant la convocation. Puis il observa mieux la chambre. L'absence de fenêtre écrasait les perspectives, rendait l'espace oppressant. Il n'y avait là qu'un lit simple, et Scrémieux n'amenait personne ici. C'était son cocon, son jardin secret au milieu des bois. Il sortit alors le cliché de Vasquez qu'il avait gardé sur lui, l'étudia attentivement et estima la position du tueur lors de la prise de vue. À 1 mètre du pied du lit. Il avait certainement fait la photo avant la mort, vu que les taches de fluide corporel sur la couette n'y apparaissaient pas. Il a pris tout son temps, une façon peut-être de faire monter l'excitation. Sa victime était encore vivante et à sa merci. Il l'a immortalisée, puis il est passé à la suite. Franck cadra à peu près à l'identique et appuya sur le déclencheur. De son côté, Glichard attaqua son monologue pour l'enregistrement. Constatation du mercredi 11 décembre, 4h10 du matin, à l'adresse suivante, chemin de l'étang Saint-Forget-Yvelines. Lieu, la scène de crime. Il se déplaça, considéra les détails avec soin et poursuivit. Le corps est allongé sur un lit d'1 mètre de large, positionné contre le mur du fond d'une chambre d'environ 12 mètres carrés. Deux radiateurs électriques branchés à l'aide de rallonges encadrent le lit, un autre se trouve près de la porte d'entrée. Ils sont poussés à leur puissance maximale, comme l'ensemble des radiateurs de l'habitation, portatifs et tous identiques. J'estime la température entre 25 et 30 degrés, ce qui a dû accélérer la dégradation du cadavre et favoriser la prolifération des mouches. Au sol sont réparties 5 casseroles d'eau presque vides. À gauche du lit, une table de nuit avec rangement contient 10 de bouquins. Géographie, histoire, roman. Près d'une petite lampe et d'un livre est posée une montre à aiguille pour femme. Celle-ci est arrêtée et indique une date, le 7, et une heure, petite aiguille sur le 9, grande sur le 17. Du bout des gants, il prit la montre, tira sur le bouton poussoir et fit tourner les aiguilles. Elle est à remontée mécanique. Il faut plus d'un tour de cadran avant que la date change. Elle s'est donc arrêtée à 9h17 et non pas 21h17 ce samedi 7 décembre. Il coupa son enregistrement et s'adressa à Charcot. De quand datent les courriers ? Les deux ont été tamponnés samedi, mais dans des arrondissements différents. Ça fait 4 jours. On verra ce que dit le légiste, mais possible que la victime ait été tuée la veille, le vendredi dans la nuit. Elle se couche, ôte sa montre, lit un peu, s'endort tranquillement, et se fait assassiner dans la nuit. Ça me semble être le scénario le plus probable. Il glissa le bijou dans un sac à sceller et appuya sur le bouton record. Je note une nuisette en soie ainsi qu'une culotte au pied avant gauche du lit. La poignée intérieure de la porte de la chambre est souillée par des traces de sang. Ce sont les seuls en dehors du lieu du crime. Les mains de la victime sont attachées avec des cordes en chanvre de petit diamètre aux barreaux métalliques de la tête de lit. Les bras sont écartés, les nœuds très complexes, peu communs. Des nœuds d'expert, je dirais. Glichard fit signe à Charcot de s'approcher et de photographier avant de couper les liens. Les membres morts tombèrent sur le matelas. Il les emballa dans des poches hermétiques pour préserver d'éventuels indices. Puis il gifla une mouche qui alla s'écraser plus loin. Le visage de la victime est recouvert d'un sac en papier marron, de ceux qu'on trouve dans certains magasins d'alimentation. Des yeux et une bouche ont été dessinés avec ce qui ressemble à du rouge à lèvres grenat, tube non présent à proximité. Alors que son collègue détaillait chaque élément et prélevait ses scellés, Charcot s'interrogeait. Le tueur semblait s'être volatilisé. Or, avant de sortir, il avait dû entrer. Comment s'y était-il pris pour que la jeune femme ne l'entende pas ? Était-ce elle qui l'avait invité à l'intérieur ? Le sac, les coups en plein visage. Charcot savait, d'après ses lectures, que les tueurs agissant de la sorte ne supportaient pas le regard de leur proie. Ce sac, comme le dessin grossier, était un moyen de la déshumaniser, la réduire à moins que rien, la chosifier. Le glaive décrivit les lésions au bord de l'écœurement. Des mouches avaient pondu dans les narines. Il souligna l'impossibilité de comparer le faciès tuméfié avec la photo, au demeurant trop ancienne et abîmée, du permis de conduire récupéré dans la poche d'un manteau. D'après ce document, Delphine Escrémieux avait 34 ans et était née à Plouzané, dans le Finistère. Mais Glichard ne la nomma jamais expressément, préférant parler de victime, de cadavre ou de corps. Il repoussa ensuite la couette souillée. Il détourna les yeux dans un réflexe. Franck s'efforça de ne pas bouger. Dans son dos, le substitut et Titi venaient d'arriver. Ces hommes avaient dû en voir des horreurs. Mais le jeune inspecteur sut que cette scène-là tiendrait une place de choix dans leurs annales. Alain Glichard se ressaisit. Il connaissait l'importance de sa déclaration. Elle constituerait le PV fondateur de l'enquête, celui sur lequel toute l'équipe s'appuierait, même des mois ou des années plus tard. La victime est entièrement nue, sur le dos, les jambes écartées, comme les bras, mais non attachées. Les seins ont été brûlés de manière très localisée et profonde, ainsi que le sexe. La chair a littéralement fondu dans ces zones alors que le reste du corps est intact. Hémorragie massive à ces endroits. Œuf de mouche de type Califora vomitoria présent en nombre au cœur des plaies. Signe d'un début de putréfaction évident. Chaque photo que Charcot prenait s'imprimait dans son esprit. Mais ses coups de scalpel sur la rétine étaient nécessaires pour ne pas oublier. Un être humain avait été capable de faire ça à un autre. Derrière, le substitut fit claquer une de ses mains sur le mur. « Très bien. Dès que vous aurez fini, vous pourrez rédiger une réquisition pour une autopsie à l'IML de Paris. Je vais me débrouiller avec le parquet de Versailles. On prend l'affaire. » Il tourna les talons, le chef l'accompagna. Glichard remit la couette en place et s'approcha du mur. Franck ne parvenait pas à cloisonner son esprit. Il n'arrêtait pas d'imaginer cette femme, face à lui, vivante, alors qu'on lui brûlait les organes génitaux. Il entendait ses hurlements. Il n'avait qu'une envie, que ce corps martyrisé disparaisse de sa vue, que cette odeur et que les bourdonnements dans ses oreilles cessent. « Sur la paroi derrière le lit, » déclara son collègue en reprenant son exposé, « je compte 22 photos en noir et blanc d'enfants, entre 6 et 10 ans environ, nus, qui semblent répartis de façon aléatoire dans un espace de 50 cm par 50. Ces enfants ont une position commune, main devant le sexe pour le cacher face à l'objectif, menton relevé, il fixe l'auteur des clichés sans sourire, avec une peur manifeste dans le regard pour certains d'entre eux. L'arrière-plan est identique, Un mur bicolore foncé en bas, plus clair en haut. L'intérieur d'une pièce à l'évidence. Il en décolla une avec douceur. Ses gestes délicats avaient quelque chose de déplacé dans cette chambre où la mort s'exposait de la plus odieuse des façons. « Elles sont scotchées à l'aide de petits morceaux d'adhésif transparent, » ajouta-t-il. Il la retourna et marqua un arrêt. Intrigué, il l'attendit à Franck. À l'arrière, une flèche avait été tracée en diagonale à l'encre bleue. Il en décolla une autre, au dos de laquelle figurait une nouvelle direction. Il interrompit son enregistrement et lâcha. « T'as vu ça ?» Charcot souleva les autres rectangles de papier glacé, sans les arracher de leur support, et observa le bout des flèches. Elles désignaient toute une direction bien précise. Il posa alors la main sur l'espace libre au cœur de ce puzzle de cornu. Elles pointent vers cet endroit. On dirait qu'il manque une photo juste là au centre. Glichard recula pour considérer le mur dans son ensemble. Le bleu avait raison. La place vide lui sautait désormais à la figure. Au milieu de la ronde de ces enfants dénudés, il en manquait un. Et le tueur voulait le leur signifier. Charcot fixa une mouche qui courait sur le visage de l'un de ces mômes inconnus. Le glaive planta ses iris de glace dans les siens. « Dans quoi on a fourré les pieds ?»